Radio Campus sur le 88.3 FM.
Bondy Blog Centre. www.bondybloccentre.fr.
Bondy Blog Café. Bondy Blog Café.
Rejoins la rédaction
www.bondybloccentre.fr.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission du Bondy Blog Centre consacrée aujourd'hui aux actualités de ces mouvements sociaux qui animent la France depuis plusieurs mois. Cette émission sera menée par Diane et Marceau et à la technique ce sera Achille Mansoury. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour Marceau, bonjour Daniel. Diane. Donc aujourd'hui on va parler des grèves qui soulèvent la France depuis maintenant plusieurs mois. Et plus précisément, les manifestations qui ont eu lieu ces dernières semaines, notamment celle du 9 janvier, où Marceau, Daniel et moi étions reporters sur le terrain.
Effectivement, donc vous aurez l'occasion d'entendre au fil de l'émission plusieurs témoignages qui ont été pris à ce moment-là. Nous, on était sur place dans les rues d'Orléans. Voilà.
Donc avant de commencer à entrer dans le vif du sujet et de parler des différents angles qu'on va aborder, à savoir les lycéens et les étudiants dans la manifestation, les urgentistes, les avocats et également la place des femmes face à cette réforme des retraites, je vous propose d'écouter un petit peu l'ambiance que ça donnait à cette manifestation le 9 janvier dernier. Donc, de retour sur Bondy Blog Centre, on va parler des manifestations et plus précisément du cas des lycéens et étudiants qui étaient là aux manifestations du 9 janvier dernier à Orléans. On va parler des lycéens et des étudiants parce que cette réforme, qu'on appelle réforme des retraites, s'accompagne d'une autre réforme qui est la réforme du bac et qui donc touche les jeunes. Ils étaient plus ou moins présents à la manifestation. C'est vrai que ce n'était pas le jour où il y avait le plus d'étudiants parce que beaucoup étaient en cours de partiel. Et il se trouve qu'au niveau des lycéens, il y en a pas mal qui ont peur de sécher. Donc il n'y avait pas non plus une présence remarquable des lycéens ce 9 janvier dernier. Il faut dire aussi que c'était la rentrée, la semaine de reprise, donc ils n'avaient pas forcément envie de louper les cours.
Ils se retrouvent un petit peu acculés, en fait, j'ai l'impression.
Et il y a des parents qui ne veulent pas que leurs enfants sèchent les cours. Donc il y a des enfants qui se rebellent et il y a d'autres élèves qui n'ont pas envie d'avoir des problèmes avec les profs ou avec les parents, notamment des problème avec Parcoursup, on va en parler. Mais pour resituer un petit peu le contexte, la réforme du bac, elle s'appelle en fait la loi Auré, donc orientation et réussite des étudiants. Elle a été instaurée le 14 février 2018 par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Et à la base, elle a été mise en place pour réduire le taux d'échec après la première année de fac ou au cours de la première année de fac chez les étudiants. On va expliquer en quoi elle concerne les étudiants et pourquoi elle touche aussi les lycéens. Parce qu'en soi, on se dit que les lycéens ne sont pas concernés par la première année de faculté. Mais en fait, si, et le lien direct entre les deux, c'est le bac. On va tout vous expliquer. Donc, cette loi, elle provoque beaucoup d'interrogations et d'angoisses chez les lycéens et les étudiants. Des interrogations par rapport au bac et par rapport à Parcoursup. Parcoursup, on y reviendra juste après. Mais d'abord, on va parler du bac. Parce que c'est le premier examen qui fait la transition entre lycéens et étudiants. C'est un examen très important qui, à la base, provoque déjà beaucoup d'angoisse chez les lycéens. Mais ces derniers temps, la pression a été décuplée parce que, avec toute cette réforme, les lycéens sont un peu perdus. Il faut savoir que les épreuves du bac ont été remplacées par 5 épreuves terminales. C'est-à-dire qu'au lieu des épreuves qui étaient entre celle de français en première et les 7 ou 8 épreuves de terminale, il y en a maintenant 5 épreuves. Seulement 5 épreuves au total, donc celle de français en première, puis en terminale les deux spécialités en mars, la philosophie et le grand oral pour le projet de chaque élève. Donc il faut savoir aussi que les séries générales n'existent plus, ça aussi ça fait partie de la réforme du bac et de cette loi orientation et réussite. Et maintenant les élèves se spécialisent et ont des épreuves aussi qui les évaluent en contrôle continu tout au long de l'année, plusieurs épreuves ponctuelles, donc de la première jusqu'à la terminale. Donc le bac a complètement changé, et j'ai envie d'interroger un petit peu notre stagiaire de 3e, donc il n'est pas encore lycéen, mais il faut savoir qu'à Radio Campus, cette semaine, on a un stagiaire de 3e qui s'appelle Lucas. Bonjour Lucas.
Bonjour Marceau, bonjour Diane, bonjour Daniel.
Bonjour.
Et Lucas, comme tu es en 3e au collège Montesquieu, c'est ça ?
Oui.
J'avais envie de te poser quelques questions. Comment est-ce que tu vois ton avenir, tes années lycée et ton arrivée jusqu'au bac ? Comment est-ce que tu le ressens ?
Bah pour moi, le bac, je trouve, d'après ce que j'ai entendu, il va être plus compliqué parce que bah il y aura, ce sera continu, et aussi on pourra plus se spécialiser dans une chose puisqu'il n'y aura plus les séries générales, et ce sera un tronc commun. Du coup, on pourra plus se spécialiser dans un truc qui nous intéresse.
Est-ce que tu te sens très informée par rapport à cette réforme?
Oui, ça va, oui.
Et donc tu le vis bien, l'idée d'aller au lycée l'année prochaine et de passer le bac dans ces conditions?
Non, parce que, enfin, pourquoi les autres, ils avaient le droit d'avoir un bon bac, et pourquoi nous, on doit avoir une réforme avec plein d'empêchements?
Tu le vis comme un obstacle?
Oui.
D'accord. Bon, après ce témoignage de Lucas, je vous propose d'écouter un autre témoignage qu'on a recueilli le jour même lors de la manifestation. C'est un lycéen de Voltaire, mais il va nous le dire lui-même, qui nous a parlé de son ressenti par rapport à cette réforme du bac.
Tu peux nous dire un peu pourquoi tu es là aujourd'hui?
Je suis là pour moi, par rapport à la précarité étudiante, pour soutenir mes amis, pour soutenir les secondes et les premières qui subissent une réforme injuste par rapport au bac. Par exemple, là, les premières, ils vont avoir des épreuves de bac dans une semaine ou deux, et ils sont même pas au courant de comment va se dérouler l'épreuve, des dates. Ils n'ont pas leur convocation deux semaines avant. C'est pas normal.
Toi, t'es en quelle classe?
Je suis en terminale.
Et toi, t'es inquiet pour le bac?
Étant donné que je vais aller en fac, non, parce que la fac, ça reste encore assez ouvert. Mais le problème, c'est que là, ça va devenir de plus en plus sélectif et de plus en plus pointilleux avec la nouvelle réforme par rapport aux premières. C'est-à-dire que dès la première, en fait, ils vont être conformés dans un système d'études par rapport à leur spécialité. Et ça, c'est un problème, parce que en littéraire, par exemple, on a plein de débouchés. Ce sera plus possible avec les nouvelles réformes. Et ça, je trouve ça dommage, parce qu'on va concentrer les gens dans une seule voie.
Mais toi, tu parles de précarité étudiante, et t'as quand même envie d'être étudiant? Ça t'inquiète pas?
J'ai quand même envie d'être étudiant. Pour ma part, j'ai la chance d'avoir des parents qui me soutiennent, mais je sais que c'est absolument pas le cas de tous les étudiants, que beaucoup sont obligés de travailler à côté, et qu'avec la réforme des APL en avril, les étudiants ne pourront plus toucher les APL s'ils travaillent, et ça, c'est pas normal. Parce que déjà, c'est pas une chance de travailler à côté de ses études. Bonjour, je m'appelle Jérémy Blanchard, je suis en terminale littéraire à Voltaire, et je suis ici pour manifester contre la précarité étudiante et la crise climatique.
Qu'est-ce que vous pensez de la présence justement des étudiants et des lycéens sur cette manifestation?
Je trouve qu'elle est moindre, qu'il faudrait que plus de gens se manifestent. Nous, ce matin à Voltaire, on a essayé de faire un blocus qui n'a pas été soutenu par le principal. Donc pas mal de gens sont allés en cours par peur par exemple des parents, des absences par rapport à Parcoursup. Et donc tout ça met une pression sur les élèves, ce qui fait qu'ils n'osent pas venir et qu'ils n'osent pas faire entendre leur voix, ou tout simplement ils sont pas assez informés.
Donc, on vient d'écouter Jérémy sur le Bondy Blog Centre. Jérémy qui est lycéen à Voltaire. Il faut savoir que le lycée Voltaire, c'est quand même parmi les lycées qui étaient les plus nombreux. Enfin, en tout cas, au niveau des élèves, ils étaient pas mal présents à cette manifestation, Voltaire. Et donc, Jérémy fait partie de ces élèves qui ont séché les cours en ce jeudi matin pour venir manifester. Il y avait aussi des profs de Voltaire. Il y avait beaucoup d'autres lycées. Il y avait Jean Zay, Potier, pour ne citer qu'eux, parce qu'on les a croisés. Professeurs et lycéens mélangés à chaque fois. Jérémy nous a parlé de précarité étudiante, mais aussi de Parcoursup, qui est un petit peu la cause de tout ça. Maintenant que je vous ai exposé la réforme du bac et pourquoi elle angoisse les élèves, je vais parler un petit peu de Parcoursup. C'est une plateforme qui a succédé à APB, donc c'est la plateforme d'admission post-bac qui a voulu mettre un terme au tirage au sort et mieux placer les élèves, pour citer les mots du ministre, dans leur formation post-bac. Et Parcoursup fait face à de nombreuses contestations, notamment parce que, en fait, elle est critiquée de ne pas assez bien placer les élèves. Et en fait, il faut savoir que le problème de base, c'est un manque de place. Mais il y a aussi une grande désinformation par rapport à Parcoursup, qui est une plateforme qui a été mise en place pour répondre au boom des élèves de l'année 2000 qui n'avaient pas de place en formation post-bac. Mais en plus de ça, de ce manque de place, il y a vraiment un manque d'information par rapport à Parcoursup. On ne sait pas exactement comment l'algorithme fonctionne et c'est assez opaque. Donc ce système crée beaucoup de doutes chez les professeurs, les élèves et aussi chez les parents des élèves, ce qui fait place à de la contestation. En plus de cette réforme du bac qui augmente les inégalités, notamment par rapport au grand oral dont j'ai parlé tout à l'heure, pour lequel il n'y a pas forcément de préparation, et bien Parcoursup est également accusé de créer de l'inégalité parce que il y a une sorte de sélection en fait qui est mise en place à partir des lycées et des formations dont viennent les élèves, c'est-à-dire que si on vient d'un lycée qui a une bonne cote entre guillemets, on a plus facilement une place en fac ou en autre formation d'ailleurs que si on vient pas d'un très bon lycée. Les appréciations des professeurs sont également prises en compte, donc ça fait des fiches à venir à remplir pour les professeurs et il faut les remplir consciemment pour chaque élève, et donc ça fait du travail en plus et il suffit d'une erreur d'un professeur ou d'une faute de frappe pour que l'élève n'aille pas dans l'université de son choix, donc c'est hyper critiqué, d'autant plus quand on apprend que toutes les universités ne lisent pas les fameuses fiches à venir et les appréciations des profs parce qu'ils sont débordés par les demandes, et donc il y a certaines universités qui opère un tri et une sélection des élèves, et d'autres universités qui font simplement en fonction des notes, donc en fonction des chiffres qu'ils voient s'afficher sur Parcoursup, ce qui crée de grandes inégalités dans les admissions ou non des élèves. Et c'est super stressant parce que pendant tout l'été, les élèves font face à une incertitude si jamais leurs vœux n'ont pas été acceptés. Ils n'ont que 2 ou 3 jours en mai pour valider leurs vœux, et certains n'ont pas tous la réponse oui. On peut avoir oui, si et en attente, et donc si on a en attente, on a une incertitude toute l'été par rapport à la formation dans laquelle on peut être retenu ou non, ce qui fait que voilà, certains lycéens décident aujourd'hui de faire blocus dans leur lycée, certains jours de manifestation. Ces blocus ne sont généralement pas approuvés par les proviseurs. Et puis, il faut savoir qu'en plus de ces inégalités, on se demande aussi quel est l'accompagnement pour les lycéens qui ne sont pas acceptés dans les formations de leur choix. Et où est-ce qu'ils vont ensuite ? Ça a peut-être un rapport avec la déscolarisation et avec ces élèves qui, après le bac, ne font plus d'études. Donc voilà, beaucoup de questions et beaucoup de doutes chez les lycéens. Certains ont même mis en place un hashtag « Revanche lycéenne » sur les réseaux sociaux pour exprimer leur mécontentement. Et je crois que des professeurs y participent également. Voilà, la revanche lycéenne, c'est pas uniquement les lycéens, c'est aussi les profs et c'est aussi les étudiants qui se plaignent de ces conditions parce qu'après, ils arrivent à la fac dans un état de débordement assez extrême. On va écouter une professeure qui nous parle du stress pour terminer ce sujet sur les lycéens et les étudiants.
Alors, je suis Sylvie Lenné, j'enseigne au lycée Potier. Par ailleurs, je suis co-secrétaire du SNES FSU pour le Loiret et je suis aussi responsable d'un secteur au SNES académique. Ce qui est compliqué, c'est que la réforme s'est faite à toute vitesse, donc il y a une désorganisation. Et on ne sait pas si le supérieur a pu effectivement s'organiser de son côté, sachant que les parcours différenciés des élèves vont faire que le supérieur va devoir accepter un maximum de parcours différenciés, ou alors au contraire considérer que si on n'a pas fait telle ou telle spécialité, on ne sera pas en mesure d'accepter un étudiant ou une étudiante. Alors bien sûr, il est question de première année, soi-disant, qui seraient des remises à niveau, mais quand on voit les difficultés actuellement qui existent à l'université, on voit mal comment les enseignants qui sont eux aussi au bord du burn-out pourraient en plus assurer des heures de préparation pour des étudiants justement qui n'auraient pas suivi, qui n'auraient pas pris les bonnes spécialités. D'autre part, on a ce problème au lycée de l'organisation du bac en contrôle continu qui sera très variable d'un établissement à l'autre. C'est-à-dire que le ministère n'hésite pas à renvoyer au local la responsabilité de faire passer un examen national, ce qui pose plein de problèmes parce que les salles ne sont pas banalisées, les cours ne sont pas banalisés, le nombre de surveillants est très limité, il y aura un surveillant par salle de classe, donc on estime que les élèves ne sont pas dans des situations optimales pour composer, sachant en plus que la préparation de l'examen va primer sur le travail habituel de l'année scolaire. Donc c'est un casse-tête pour les collègues qui doivent à la fois avancer leur programme et en même temps les préparer 2 fois dans l'année pour des épreuves de bac. Donc c'est complètement désorganisant, désorganisé. Ça produit beaucoup de stress chez les lycéens et les lycéennes et leurs familles. Et puis surtout, ça veut dire que la charge de travail des enseignants qui n'en peuvent déjà plus explose, sachant que cette réforme à la fois du bac et cette réforme du lycée, on l'a combattue l'année dernière. Il y a eu 5 ou 6 grèves dans l'année et le gouvernement a continué comme si de rien n'était. C'est à l'image de ce gouvernement qui, soi-disant, entend, mais sans jamais rien écouter. Donc là, on est au bord de l'implosion, on est au bord de l'explosion du système. pas parce que le système ne fonctionne pas, mais parce que on veut à tout craint faire des réformes à toute vitesse qui ne sont pas concertées avec les acteurs et les actrices de terrain et qui obéissent avant tout à des dictats économiques. Et ça, actuellement, on est en train d'en crever, pas seulement dans l'éducation nationale, mais dans la société tout entière et la planète aussi. Donc il faut revenir, il faut dire stop, il faut remettre tout à plat, parce que là, plus personne ne peut accepter ces conditions de travail, ces conditions de vie qui sont déplorables et qui vont vers l'indignité.
Voilà, témoignage d'une professeure en colère. On en a fini avec le sujet sur les lycéens et les étudiants. Une professeure qui fait très bien la transition et le lien entre la réforme du bac et Parcoursup, puisqu'elle parle directement du bac et de la première année de fac et en quoi l'un a des résonances avec l'autre. Maintenant, Daniel, je crois que tu vas nous parler du cas des urgentistes en grève.
Et oui, parce qu'ils étaient également présents dans la manifestation de ce jeudi 9 janvier. Dans toute la France, les services d'urgence mènent une grève pour protester contre leurs conditions de travail et les sous-effectifs. La crise a débuté début 2019 et gagne en ampleur. Dans le Loiret, presque tous les urgentistes, aides-soignants, infirmiers, médecins, ont rejoint le mouvement depuis le début du mois de juin 2019. Alors, quelles sont les raisons de leur colère ? Eh bien, les services sont débordés. D'autant plus que la désertification médicale, en privant les malades de généralistes, en amène de plus en plus vers les urgences. Lors de la manifestation du 9 janvier, nous avons croisé des urgentistes en colère.
Moi, je m'appelle Marc et je suis infirmier dans le service des urgences d'Orléans depuis 8 ans maintenant. Pas assez de personnel, pas assez de moyens. Une population qui ne fait qu'augmenter en termes d'activité, ça devient insoutenable.
Concrètement, quelles sont vos revendications ?
Toujours les mêmes. On est affilié au collectif Interurgence. Réouverture des lits, arrêt des contrats précaires, une augmentation de salaire de 300 euros. On reste toujours sur les mêmes revendications et on n'a toujours pas été écouté malgré des mois et des mois de grève. Quand j'ai commencé mon activité, les grosses journées, on faisait 115-120 passages par jour. Là, on dépasse les 200 allègrement et on est la même quantité de personnel. Du coup, les gens attendent plus. Qui veut dire un risque de mortalité accrue, ça a été prouvé. Donc voilà, c'est très compliqué de travailler dans ces conditions-là. On voit bien qu'on va devoir travailler de plus en plus longtemps pour gagner probablement de moins en moins. On ne peut pas travailler à l'hôpital jusqu'à 64 ans, 65 ans, c'est-à-dire qu'une fois à la retraite, on prend directement notre place dans un lit de gériatrie, c'est quasiment ça.
Voilà, donc un témoignage qui s'achève sur une pointe d'humour, voire d'ironie. Donc les services sont débordés, vous l'avez compris en écoutant ce témoignage. Tout cela a bien sûr plusieurs conséquences. L'épuisement des soignants, une prise en charge des patients de moins bonne qualité, avec des heures d'attente avant de voir un médecin et des journées d'attente sur des brancards, dans des couloirs, de la maltraitance, des erreurs médicales parfois. Et puis des patients en colère, légitimement, qui reportent malheureusement ce sentiment sur les soignants déjà débordés. Les urgentistes portent donc trois revendications auprès de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Plus d'effectifs, avec la création de 10 000 postes d'infirmiers et aides-soignants dans 550 hôpitaux en France, l'ouverture de lits et une hausse des salaires de 300 euros net par mois, comme vous avez pu l'entendre dans le reportage. Donc ça, c'est l'extrait d'un article qui était paru dans La République du Centre en juin 2019 et plus récemment en janvier 2013. Un article relate les démissionnaires qui ont signé une démission symbolique à l'hôpital d'Orléans. En effet, 5 chefs de service de l'hôpital d'Orléans ont signé une lettre nationale de démission collective. 5 chefs de service orléanais qui ont signé une lettre de démission collective qui a rassemblé 1100 professionnels de santé. Ils vont entamer une grève administrative un peu partout en France. Une action coup de poing pour sauver l'hôpital public. Les démissionnaires réclament un plan d'urgence réel pour garantir la qualité des soins et la sécurité des patients. C'est un mouvement inédit qui emboîte le pas au mouvement de grève qui dure depuis des mois à l'hôpital, notamment aux urgences. Il traduit bien le climat extrêmement tendu dans l'hôpital public et le ras-le-bol de ses personnels. Donc voilà des personnels urgentistes qui étaient là non seulement pour la réforme des retraites, mais aussi pour dénoncer des conditions de travail insupportables, insoutenables, non seulement pour eux-mêmes, mais également pour les patients du service public. On va marquer une pause musicale, Marceau.
Tout à fait, je vous propose d'écouter pour marquer la pause le morceau Sad Days de la cryptique FKA Twigs, donc morceau présent sur son dernier album Magdalene sorti en automne dernier. Voilà, profitez bien.
Every time you look outside your window, everything is just the same as before. You are turning round and round, you see it's a sad day for sure. Taste the fruit of me.
Alors, vous êtes de retour sur Radio Campus et je vous propose de dresser un petit peu, maintenant qu'on est passé par le cas des jeunes, le cas des urgentistes, de vous dresser le tableau un petit peu du côté des avocats, de ce qui se passe, des causes, de ce pourquoi ils sont aujourd'hui dans la rue et vous expliquer un peu comment ça marche pour eux. Alors, les avocats, ils se retrouvent à manifester, comme beaucoup en ce moment, déjà contre le contenu de la réforme, mais aussi contre l'absence de réaction, voire le verrouillage total du débat de la part de l'exécutif. Donc voilà pourquoi ils se retrouvent là, pour rentrer plus dans le détail. Donc, la caisse de retraite des avocats, la Caisse nationale des barreaux de France, selon eux, est une caisse qui est juste, solidaire et bien gérée. Ce sont des propos qui ont été recueillis, des propos de Rachel Saada. Et ils affirment avoir des réserves à long terme. Ils ne voient pas de problème avec leur régime de retraite. Et donc, ils s'opposent un petit peu au fait qu'on leur impose le régime général.
C'est un régime autofinancé, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait. Donc la hausse des cotisations inquiète d'autant plus les petits cabinets qui ne seront pas en mesure d'appréhender la réforme. Pour un ordre d'idée, donc, ces deux avocats collaborateurs sur une manifestation qui a été tenue à Paris le 16 septembre 2019, qui tiennent ces propos, ils nous expliquent qu'à peu près la moitié des avocats vont être impactés et que ça fera en moyenne 500 euros par mois et par avocat en moins si la réforme passe, si la réforme est validée.
Donc un doublement des cotisations pour tous les avocats et en plus une baisse des pensions si on calcule sur le long terme.
Tout à fait. Et quelque chose aussi qui peut-être est méconnu un petit peu de notre côté, du côté du public, c'est qu'il existe en fait au sein de la profession d'avocat une grande disparité de salaire et de confort de vie. Et voilà, contrairement à ce qu'on pourrait penser à première vue. Et en fait, globalement, sur l'échelle de tous les gens qui sont dans cette profession d'avocat, c'est à peu près la moitié qui vont être touchés et qui vont pas pouvoir encaisser en fait les hausses de la cotisation et qui sont donc directement menacés de disparaître à terme. D'autant que les cabinets, je vous le rappelle, ne sont pas constitués que d'avocats, mais aussi d'autres salariés qui, fatalement, seront impactés par la réforme. Aussi, on pense au fait que cette profession d'avocat, c'est un des débouchés majeurs de la filière du droit aujourd'hui en France, et ça pose évidemment un problème pour les générations futures qui sont en train de conduire leurs études en ce moment même, parce que, en fait, leurs perspectives d'embauche vont être considérablement réduites. Leur intégration au marché du travail aussi est mise en danger, et donc fatalement leur niveau de vie. Enfin, on peut finir aussi sur l'impact sur nous tous, sur les justiciables qui auront besoin effectivement peut-être à des moments de consulter des avocats. Le problème étant que forcément, pour pallier à la hausse des cotisations, c'est en premier les honoraires qui vont être revus à la hausse. Et donc, ça pose la question de l'accès au droit qui va se voir conséquemment remise en question. Donc, je vous propose maintenant d'écouter la parole, le témoignage d'un bâtonnier qu'on a eu sur la manifestation d'Orléans le 9 janvier de cette année. Voilà, donc on a eu la chance d'écouter sa voix.
Alors, est-ce que je peux vous demander de vous présenter, enfin de dire en tout cas ce que vous faites dans la vie et pourquoi vous êtes là ?
Voilà, alors je m'appelle Hugues Leroy, je suis avocat depuis 1980 et je suis bâtonnier de l'ordre des avocats en exercice pour cette année et puis également pour l'année dernière. Donc. Alors nous sommes effectivement dans la rue parce que les 70 000 avocats de France et comme les 164 barreaux, dont le barreau d'Orléans, eh bien sont fortement mobilisés et en colère puisque c'est l'incompréhension face à la réforme des retraites que l'on souhaite nous imposer, alors même que nous bénéficions d'un régime qui est équilibré, qui est solidaire, qui est équitable. Et il est tellement équilibré qu'on verse 92 millions d'euros par an au régime général. Il est tellement équilibré que nos réformes sont assurées jusqu'en 2050 et 2080 et que rien ne justifie donc effectivement la réforme qui est voulue par nos gouvernants. Bien au contraire, puisque cette réforme aboutit en ce qui nous concerne à un doublement de nos cotisations, à une diminution de nos droits à la retraite, ce qui va mettre en péril les plus petits cabinets d'entre nous, ce qui va paupériser le barreau et ce qui va mettre également en péril donc carrément la présence du droit sur tout le territoire national.
Et alors pourquoi vous avez rejoint les manifestations maintenant, récemment ?
Parce que c'est une manifestation interprofessionnelle, que le tournant a été pris au moment des fêtes, puisqu'on s'est aperçu que les pilotes qui sont dans une situation à peu près similaire à la nôtre, eh bien, ont obtenu gain de cause dès lors qu'ils ont annoncé un préavis de grève pour les 2, 3 et 4 janvier. En quelques heures, leur régime a été sauvé, parce que le gouvernement, effectivement, préfère un avion qui arrive à l'heure ou qui part à l'heure, plutôt qu'effectivement d'avoir affronté le contentieux de la liberté.
Et donc là, vous êtes motivé à venir à toutes les manifestations jusqu'à ce que ça obtienne gain de cause ?
On est motivé pour effectivement tout faire pour être entendu et pour que enfin le vent de la justice, puisque c'est la justice qui nous anime, et bien que le vent de la justice en ce qui concerne la réforme nous permette d'aboutir à une solution qui soit tout à fait acceptable.
Voilà donc pour ce témoignage du bâtonnier qu'on a eu sur la manifestation d'Orléans le 9 janvier. Bon, tout ça pour dire que, voilà, particulièrement depuis ce début 2020, la tension est à son comble. On est vraiment dans un climat d'exaspération généralisée du côté des avocats, comme de beaucoup d'autres côtés d'ailleurs. Et voilà, pour vous faire une idée, le 13 janvier dernier, donc, les avocats ont jeté les robes, salle des pas perdus, ici même à Orléans, pour réagir à justement la suppression de l'âge pivot et pour montrer encore une fois leur colère et leur décision, enfin leur, comment dire, leur détermination à ne pas laisser passer cette réforme.
On va, avant de changer de sujet, écouter une autre captation sonore lors de la manifestation. C'est une chanson que certains d'entre vous reconnaîtront sûrement, l'International. On vous laisse écouter ça et puis on revient pour aborder le dernier angle de ce sujet sur les grèves et les manifestations. Rebonjour à tous, après cette pause en rouge, toujours sur Radio Campus, le Bondi Blog Centre, avec Marceau, Daniel.
Je suis là.
Et moi-même qui vais vous parler de la situation des femmes dans cette réforme des retraites. On parle de retraite par points, POINT, mais on a vu beaucoup de pancartes d'associations féministes et pas que, qui parlaient d'une retraite par points, POING. On va vous expliquer pourquoi cette métaphore et pourquoi cette retraite est également preuve d'une violence symbolique faite aux femmes. En tout cas, c'est l'avis des associations féministes. Il faut savoir que cette retraite met en péril l'autonomie financière des femmes. Pourquoi ? Eh bien, parce que au lieu d'être les grandes gagnantes, pour citer le haut commissaire aux retraites à l'époque où a été annoncée la réforme, Jean-Paul Delevoye, eh bien... Les femmes sont plutôt grandes perdantes financièrement, mais aussi symboliquement dans l'indépendance et dans leur autonomie par rapport à cette réforme des retraites. En effet, beaucoup d'associations féministes étaient présentes à la manifestation. On peut citer Femmes solidaires, Oser le féminisme, mais également le planning familial. Et puis il y avait aussi en fait, beaucoup d'individus, hommes ou femmes, seuls, sans faire partie d'associations qui revendiquaient leur féminisme et qui ont bien voulu nous donner leur témoignage. Il faut savoir que cette réforme des retraites met fin au mécanisme de solidarité garantis par la sécurité sociale, donc on appelle ça des droits de solidarité. Autrefois garantis par la sécurité sociale, ils seront maintenant gérés par l'État dans une enveloppe séparée, pour citer les mots du gouvernement, ce qui remet en cause l'aide apportée aux femmes et aux mères, ces aides qu'on appelle droits de solidarité, parce que s'ils sont gérés par l'État et qu'ils font partie du budget de l'État dans une enveloppe à part, ça, on en vient à se demander s'ils ne seraient pas oubliés en cas de budget défaillant de l'État. Est-ce que ce ne serait pas une enveloppe qu'on utiliserait pour autre chose ou qui en tout cas serait volontairement omise en cas de gros budget de l'État, de manque de budget de l'État. On va également parler, enfin plutôt rappeler, que le salaire des femmes reste toujours inférieur à celui des hommes, ce qui a un gros impact sur cette réforme des retraites, parce que la retraite dépend naturellement du salaire qu'a eu chaque personne toute sa vie. Il faut savoir que les femmes gagnent 75% du salaire des hommes, et quand on en vient aux retraites, elles touchent 60% de la retraite des hommes. Donc ça reste inférieur, et cette réforme ne pallie pas cette inégalité. Elle fait plutôt l'effet inverse. On va d'abord aborder les pensions de réversion, une mesure qui fait débat dans cette réforme. Il faut savoir qu'en moyenne, aujourd'hui, les hommes touchent 1933 euros de pension brute par mois, tandis que les femmes touchent 1123 euros de pension brute par mois. Et ça va s'aggraver puisque, pour parler du cas des veuves, elles doivent être à la retraite elles-mêmes et avoir effectué une carrière complète de 43 ans pour toucher la retraite du mari défunt. Il faut de plus savoir que l'âge pour toucher la retraite du mari défunt a été retardé de 55 ans à 62 ans. Donc ça augmente la précarité chez les femmes âgées, puisque l'âge pivot recule sans cesse, il faut avoir fait une carrière complète et on passe de 55 à 62 ans. Donc c'est un reculement sans cesse et permanent de l'âge pivot qui augmente le seuil de pauvreté chez les femmes âgées et laisse penser que les femmes âgées devront attendre encore et encore et encore plus pour toucher la pension du mari défunt. De plus, cette mesure concernant les pensions de réversion ne touche pas les femmes divorcées, c'est-à-dire qu'elles ne toucheront même pas de pension liée à l'ex-mari. Elles ne sont même pas concernées par cette mesure, car en cas de divorce, la femme n'a plus le droit à une pension liée à l'ex-mari, ce qui augmente à nouveau la précarité et fait baisser le niveau de vie des femmes en cas de divorce. Donc ça augmente en fait la dépendance au conjoint. Une femme va avoir peur de divorcer par peur de manquer d'argent. Et ça augmente également le risque d'exposition aux violences domestiques, c'est-à-dire que les femmes devront rester mariées à leur mari même s'il est violent avec elles. Donc plus de protection pour ces femmes-là qui n'auront pas d'argent pour divorcer, pas d'argent pour devenir autonomes financièrement parce qu'elles dépendront du salaire et de la retraite de leur mari. Il faut savoir que cette mesure ne concerne même pas le PACS ou autre forme de concubinage qui sont pourtant en hausse, donc cette mesure ne prend pas en compte ces formes-là de concubinage. Et on en a profité pour demander quelques chiffres aux associations féministes qui étaient présentes et qui nous ont rappelé qu'en 2019, en France, avait eu lieu 122 féminicides. Donc l'implication des associations féministes dans ces manifestations est assez importante puisqu'elle a directement un lien avec les féminicides et les violences faites aux femmes en France, un sujet très important et dont il faut parler pour essayer d'agir dessus, parce que c'est vraiment quelque chose d'inquiétant en France aujourd'hui, et cette réforme des retraites a un rapport avec, contrairement à ce qu'on pourrait penser au premier abord. Enfin, la réforme des retraites a un effet sur la situation des femmes par rapport aux mécanismes de compensation liés aux enfants. En effet, on rappelle que chaque femme touchait jusqu'ici 8 trimestres de cotisation pour chaque enfant. Ces trimestres vont être remplacés par des points qui ne sont pas forcément un point gagnant non plus, puisqu'ils font décoter la retraite. Pour résumer, une femme a généralement beaucoup d'interruptions de travail dans sa carrière à cause de la grossesse, du congé maternité, également des temps partiels, des périodes de chômage. Donc tout ça fait baisser le nombre de points et à terme baisser la retraite. De plus, ce remplacement par des points n'est pas intéressant puisque chaque couple ayant un enfant avait une majoration de 10% à partir du troisième enfant. Ça va être remplacé par une majoration de 5% à chaque enfant et une bonification de 2% au troisième enfant. Il faut savoir que cette bonification est prévue pour être attribuée par défaut à la mère, mais les parents ont jusqu'aux 4 ans de l'enfant en question pour changer, c'est-à-dire qu'ils peuvent décider de l'attribuer au père, et c'est ce que la plupart des couples vont choisir de faire puisque les hommes ont un salaire supérieur. Donc la plupart des couples vont affecter cette bonification au salaire plus élevé du mari, donc tout ça étant dû à l'inégalité de salaire homme-femme. Et donc c'est une illusion de libre choix puisque la plupart des couples vont faire ce choix de l'affecter au salaire du mari, ce qui rend la femme dépendante au salaire du conjoint puisqu'à terme elle ne peut plus changer une fois que l'enfant a passé les 4 ans, et si elle veut se séparer du mari, elle a tout intérêt à ne pas le faire parce que sinon elle perd cette bonification de 2% de compensation liée à l'enfant. Donc encore une preuve de dépendance de la femme au salaire du conjoint, et si elle est dans un cas compliqué de violence domestique ou qu'elle a simplement envie de divorcée, c'est pas forcément lié à de la violence, elle se trouve dans l'embarras, et dans l'embarras financier en fait, et ça prive les femmes d'une autonomie financière pour lesquelles elles luttent quand même depuis un certain temps, et pour lesquelles elles sont encore obligées de lutter aujourd'hui. Donc cette réforme des retraites a vraiment un impact important sur les femmes. Pour terminer cette émission sur les grèves et les manifestations, on va vous rappeler Je me suis trompée. On va d'abord écouter le témoignage d'une jeune féministe. Donc elle est au lycée et elle nous parle de sa vision du féminisme parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir la vision des jeunes sur le féminisme aujourd'hui. Donc on l'écoute, c'est tout de suite sur Bondi Blog Centre.
Pour toi, ça veut dire quoi féminisme aujourd'hui ?
Bah, l'égalité entre hommes et femmes. Et c'est un truc genre que, pour lesquels les femmes elles se battent un peu. Enfin, genre, il y a beaucoup de filles que moi je connais qui sont ultra féministes et tout, enfin, qui se disent féministes.
Tu as quel âge toi ?
15 ans.
Tu as beaucoup d'amis qui sont féministes ?
Oui, bah oui, pratiquement toutes. Mais après, je sais pas trop si c'est plus en mode genre être féministe pour dire je suis féministe ou genre vraiment parce qu'elles le sont vraiment, qu'elles le pensent.
C'est quoi la différence entre dire qu'on est féministe et être féministe ?
Enfin, en soi, y a pas vraiment de différence, mais juste, y en a, elles se donnent un peu un genre. Moi, je me bats pour l'égalité homme-femme, alors qu'en soi, enfin, je sais pas si on peut faire grand-chose à notre âge pour changer ça, quoi.
Justement, à ton échelle, qu'est-ce que tu penses que tu peux faire pour le féminisme ?
Je sais pas, juste pouvoir en parler avec les autres, je trouve ça déjà cool.
Et tu leur dis quoi aux autres, par exemple ? T'en parles à qui ?
Enfin, c'est un sujet un peu... Enfin, c'est un truc assez naturel. J'ai pas vraiment... Genre, quand j'en parle, on va dire à des garçons. Enfin, ils sont déjà... Pour eux, c'est naturel. Leurs parents, ils les ont élevés en mode... Déjà, égalité homme-femme. J'ai jamais eu affaire à des personnes qui sont ultra en mode... Enfin, en mode, les femmes, c'est censé être des femmes au foyer qui gagnent moins que les hommes et tout. Du coup, ben, j'ai pas grand-chose à leur dire pour changer, quoi.
Donc autour de toi, il y a des filles qui sont féministes, mais est-ce qu'il y a des garçons qui se déclarent féministes aussi ?
Non, enfin non, j'en ai jamais parlé avec eux. Mais je pense que au fond, enfin si on leur dit ouais, toi t'es, si je dis à un mec que toi t'es féministe, il me dira que oui, en soi lui, enfin il est pour l'égalité homme-femme.
Est-ce que tu penses que le féminisme progresse en 2019 ?
J'ai l'impression qu'on en parle beaucoup plus. Enfin moi, étant sur les réseaux sociaux, tout le monde partage des trucs et tout, donc ça se fait beaucoup plus connaître, on va dire. Mais en soi, j'ai pas l'impression que ça change grand-chose. Enfin c'est bien de partager des trucs sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas l'impression que ça change énormément de choses. Genre par exemple, moi je regarde beaucoup de choses sur les réseaux sociaux concernant le féminisme, mais je partage jamais rien parce que j'ai pas l'impression que ça fasse bouger énormément de choses.
Enfin, tu penses que c'est quoi les moyens pour défendre le féminisme aujourd'hui ? Pour toi, il faut faire comment pour que le féminisme avance ?
En soi, ça se fait déjà, enfin, toutes les manifestations et tout, mais j'ai l'impression qu'on se fait pas, les personnes qui veulent faire bouger ça, ils se font pas assez entendre, enfin, on comprend, enfin, tout le monde est au courant de ce qui se passe et tout par rapport à ça, mais ouais, ça change pas. Et enfin, si, il y a quand même des avancées, des évolutions, mais ce qu'on sait, c'est déjà grave bien parce que les réseaux sociaux, je pense que c'est une des meilleures choses à faire. C'est un truc qui est accessible par tout le monde et que tout le monde, que tout le monde voit et tout ça, mais en soi, je sais pas.
Et toi, en tant que lycéenne de 15 ans, à l'heure actuelle, est-ce que tu ressens de l'inégalité par rapport aux hommes dans la société ou même aux garçons de ton âge qui sont au lycée avec toi ou que tu croises
au lycée? Enfin, ouais, des fois, je vois des petits trucs en mode, enfin, par exemple, rien que. Par exemple en sport, des trucs comme ça, que ce soit pas du tout les mêmes plannings, on va dire, de sport pour les garçons et pour les filles, alors que par exemple moi dans certains sports je me dis je pourrais très bien faire ce que font les garçons et tout ça. On a eu un cours et tout, une intervention d'un monsieur qui nous parlait justement de ça, l'égalité homme-femme et tout dans les métiers. Et il y avait des sondages comme quoi les filles réussissaient beaucoup mieux leurs études que les garçons. Enfin, quand le monsieur nous a dit ça, tous les garçons ils étaient en mode ça se fait pas et tout. Et les filles elles étaient grave en mode ouais, trop la classe et tout ça. Et ou même, enfin souvent, enfin moi j'ai déjà vu des profs de maths en mode les filières scientifiques et tout, il y a beaucoup plus de garçons qui font ça.
De retour sur le Bondi Blog Centre avec Marceau et Daniel, on va terminer cette émission sur les grèves en vous rappelant les prochains rassemblements à Orléans et dans la région. Il y a un rassemblement le 22 janvier à Saint-Denis-en-Val. Il y a également un rassemblement le jeudi 23 janvier, 18h, une retraite au flambeau au départ de la place d'Arc à Orléans. Et je crois qu'il y a des équivalents dans la région à Montargis, mais je parle surtout pour ceux qui sont à Orléans et qui nous écoutent sur Radio Campus. Et enfin, une grève TAO le vendredi 24 janvier. Donc, que vous fassiez les grèves ou que vous preniez les transports, vous serez peut-être et même sûrement impacté. C'est une grève professionnelle qui concerne également les cheminots. Ils vont se rallier tous ensemble au départ du parvis de la cathédrale. Et donc, il y aura également d'autres professions, en fait, pour tous ceux qui sont volontaires pour accompagner cette manifestation à 10h30 au départ du parvis de la cathédrale. Voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Marceau et Daniel.
Merci beaucoup.
Merci à toi Diane. Et puis plus d'informations sur le site du Bondi Blog Centre où on pourra retrouver un article que tu as fait sur
la situation des femmes face à la retraite.
Voilà, plus un autre article de Olivier Garban sur la précarité étudiante. À bientôt sur le Bondi Blog Centre.